Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour ce petit moment de causerie catholique. Alors nous retrouvons aujourd'hui le Père Petit Clerc. Père, bonjour.
Bonjour.
Que nous avions déjà entendu au moment de son séjour en Nouvelle-Calédonie. Et simplement, je rappelle que vous êtes prêtre, éducateur et sociologue, mais vous précisez toujours prêtre salésien. Alors pouvez-vous nous dire ce que c'est qu'un prêtre salésien ?
Ben, prêtre salésien, donc c'est un prêtre qui appartient à la congrégation qui a été fondée par Don Bosco au XIXe siècle en Italie. Et si on s'appelle le salésien, c'est que Jean Bosco a confié notre ordre à Saint François de Sales, dont il admirait à la fois la douceur, alors que nous étions en pleine période de conflit entre catholiques et protestants. François de Sales fut l'artisan du dialogue. Et puis, il avait écrit un formidable livre, l'Introduction à la vie dévote, qui était le premier best-seller d'édition religieuse. Et l'idée forte de François de Sales, c'est que la sainteté est un projet pour tous. C'est pas un projet pour une élite qu'on va mettre dans un musée. C'est un projet pour tous, pour l'homme d'armes, mais aussi pour le commerçant, pour la femme noble, mais aussi pour la domestique. Et Jean Bosco était très attiré par cette idée proposée à chaque jeune d'être saint. Vous savez que Dominique Savio a été un de ses élèves qui est devenu saint, et dans un climat de joie.
Alors, Don Bosco vivait en Italie, vous venez de nous le dire, au XIXe siècle.
Voilà, donc c'est un petit garçon qui est né en 1815 dans une famille très pauvre, dans un petit hameau situé près de Turin. Très tôt, il était orphelin de père, et on est toujours marqué par les événements qui surgissent dans la petite enfance. Très tôt, il a rêvé de devenir prêtre, on nous dit que c'est vers l'âge de 9 ans, et il voulut étudier. Et ce fut un véritable parcours d'obstacles. Parce que dans la famille, eh bien, on comptait sur lui comme paysan, et comme le disait son grand frère, c'est pas la peine d'apprendre à lire pour garder les vaches, ton avenir, toi, c'est de garder les vaches, arrête de nous ennuyer avec tes désirs d'étudier. Et ce petit garçon, donc, refusa vraiment de s'inscrire dans un destin tracé par les autres, et fut très tôt habité par cette idée de vocation. Il était appelé par Dieu pour devenir prêtre. Et il se faisait déjà évangélisateur de ses jeunes camarades. On dit qu'il excellait dans les arts du cirque. D'ailleurs, il est devenu le patron des arts du cirque. On le représente souvent sur un fil. Et ainsi, il faisait des petits spectacles qui lui permettaient ensuite de s'adresser à ses camarades. Il rentre au collège donc à 14 ans. La moyenne est plutôt 12 ans. Il se fait moquer de lui avec ses habits de paysan. D'autant plus qu'il est obligé de travailler pour se payer une chambre, alors que la plupart de ses camarades, eux, logeaient chez papa-maman. Il en a un peu souffert pendant son adolescence. Grâce à son travail, à une mémoire assez prodigieuse, il réussit ses études, il rentre au séminaire, et il est ordonné prêtre à l'âge de 26 ans. Et une fois ordonné prêtre, il refuse les propositions de nomination de son évêque. Vous allez me dire, ça commence mal. Car qu'est-ce que l'évêque propose à un jeune prêtre ? C'est aussi vrai aujourd'hui qu'hier. On lui propose d'être soit curé d'une petite paroisse, soit vicaire dans une grande paroisse. Et Jean Bosco de dire, mais si monseigneur, j'accepte votre proposition, je vais rencontrer des jeunes qui fréquentent l'église. Mais tous ces gamins que j'ai vus à pas d'heure traîner dans les bars lorsque je travaillais comme serveur, c'est certainement pas à l'église que je vais les rencontrer, parce que ça fait bien longtemps qu'ils n'y mettent plus les pieds. Alors, de grâce, permettez-moi d'aller à leur rencontre. Donc, il va à la rencontre de ces jeunes, dans les faubourgs de Turin. Il faut savoir qu'à cette époque, beaucoup de jeunes quittaient les petites exploitations familiales de campagne, qui n'arrivaient plus à faire vivre les familles entières, et atterrissaient dans la ville avec tous les mirages de la grande ville, mais rarement ça ne se passait comme ils l'avaient rêvé. Ils étaient obligés de voler pour survivre, et beaucoup se retrouvaient en prison. Jean Bosco va dans les prisons. Le dialogue au démarrage est difficile. On raconte qu'un jour, il s'écroule en pleurs dans les couloirs de la prison et il est couvert de quolibets et d'insultes. Nous, on chiale pas sur notre sort. On n'a pas besoin de curés qui viennent chialer sur notre sort. Dehors les curés. Et au milieu de toutes ces insultes, il entend la voix d'un jeune, 13 ans, qui dit à son codétenu, mais si ce prêtre pleure, c'est peut-être qu'il nous aime. Si notre mère nous savait ici, peut-être se mettrait-elle à pleurer. Et c'est la parole de ce gamin, dont on ignore le nom, qui véritablement ouvre son champ vocationnel. Au sortir de la prison, Jean Bosco se dit, mais si ces mômes avaient pu rencontrer, avant d'en arriver là, quelqu'un qui ait su se rendre attentif à leurs problèmes, à leurs difficultés, on aurait pu éviter cette incarcération si néfaste à leur devenir. Alors, il consacra toute sa vie à tenter de répondre aux besoins des jeunes, besoin de toit pour ceux qui étaient à la rue, il fonda des orphelinats, besoin de formation pour ceux qui étaient au chômage, et ils font des ateliers professionnels, besoin de loisirs pour ceux qui étaient désœuvrés, et ils fondent des centres de loisirs, et puis surtout, besoin de sens. Et ils passent beaucoup de temps à traduire dans un langage compréhensible par des jeunes peu cultivés l'enseignement de l'Église et toute l'histoire sainte.
Alors dans tout ce que vous nous disiez, j'étais dans la suite de ma phrase. Pardon, merci Daniel. Dans tout ce que vous nous dites, tout ce que vous venez de nous dire nous montre que ce message, enfin cette action qu'il a eue et toutes ces intuitions qui étaient de l'époque sont également applicables aujourd'hui. Elles sont modernes dans le fond.
Complètement. Vous savez, Jean Bosco est celui qui a appliqué dans le champ éducatif le slogan bien connu des médecins « mieux vaut prévenir que guérir ». Et lui, il l'a traduit en « mieux vaut prévenir que réprimer ». Et donc aux autorités italiennes, qui ne cessaient de dire « ces jeunes développent des comportements monstrueux, une seule solution, enfermons-les », lui de répondre « la violence de ces jeunes est le signe de la faillite de notre accompagnement éducatif ». Une seule solution, tous ensemble, retroussons les manches et accompagnons-les et éduquons-les. Et il nous a légué un système éducatif fondé sur la confiance et l'alliance. Il aimait dire « sans affection, pas de confiance, sans confiance, pas d'éducation ». Pour que la relation éducative puisse s'instaurer, il faut que le jeune ait confiance en l'adulte. Et comment faire naître cette relation de confiance, si ce n'est lorsque le jeune sent l'estime que l'adulte lui porte? Et puis il disait aussi, il faut faire alliance avec les jeunes. Sans votre aide, je ne puis rien faire. C'est le jeune qui est le premier acteur du processus éducatif. L'éducateur est là pour l'accompagner.
Alors aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup de Salésiens dans toutes les parties du monde qui continuent cette œuvre.
Tout à fait. Nous sommes présents dans près de 150 pays. Et vous savez ce qui est extraordinaire, et je crois que c'est unique dans l'histoire de la société et de l'Église, c'est que la congrégation a été fondée par Jean Bosco et des jeunes. La plupart des autres congrégations ont été fondées par un fondateur et ses amis, François et ses amis, Dominique et ses amis, Ignace et ses amis. Là, c'est Jean Bosco qui réunit 17 jeunes, un soir de décembre 1859 dans sa chambre, leur disant « Je vous ai aidé, maintenant j'ai besoin de vous pour que vous aidiez les petits frères ». Le plus jeune avait 15 ans, l'aîné 24 ans. Ils étaient 17 dans cette chambre en décembre 1859. 100 ans après, ils sont 16 000 aux quatre coins du monde. Peu connus en métropole, beaucoup plus connus en Inde, en Amérique latine, en Afrique. D'ailleurs, notre pape François, dans ses souvenirs d'adolescent, parle de l'influence importante qu'a eu la fréquentation des Salésiens lorsqu'il était lui-même adolescent. Et je crois que tout cet attrait pour la périphérie, quelque part, trouve un peu sa racine dans ce qui a été transmis alors qu'il était adolescent par mes frères Salésiens de Don Bosco.
Eh bien, je pense que dans notre pays, où la jeunesse est quand même très importante, il y a un fort pourcentage de jeunes, et votre récit, votre message sera allé droit au cœur à la fois des enseignants et de leurs parents, et leur sera utile dans toute l'attention qu'ils doivent porter à la jeunesse.
Oui, et ma foi, je regrette un peu que les Salésiens de Don Bosco ne soient pas présents dans les dom-toms, j'en parle de temps en temps au provincial, car il me semble effectivement que ce message de Don Bosco est tout à fait pertinent dans une société en mutation, car la caractéristique commune de notre société et de celle qui était au temps de Don Bosco, c'est de connaître ces importantes mutations, et que dans ces périodes de mutation, on s'aperçoit effectivement que ce qui va permettre l'éducation, c'est la qualité de la relation de l'adulte et du jeune.
Eh bien, nous allons prier dans ce sens, très fort, en espérant que les choses pourront bouger. Merci beaucoup, Père Petitclerc, et merci à vous, amis auditeurs, d'être fidèles à l'écoute de notre émission. Et rendez-vous dimanche prochain.